Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la bêta-thalassémie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Laure Joseph. Docteur Joseph, bonjour.
Bonjour.
Docteur Joseph, vous êtes hématologue, praticien hospitalier au sein du service de département de biothérapie de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et vous êtes l'hématologue référent adulte du centre de référence enfants et adultes de Paris, dont l'hôpital Necker est site constitutif, pour la filière MCGRE, qui est la filière de santé maladie constitutionnelle rare du globule rouge et de l'érythropoïèse. Docteur Joseph, nous abordons aujourd'hui la prise en charge des patients adultes atteints de bêta-thalassémie. Alors pour débuter notre entretien, quels sont les fondamentaux de cette prise en charge ?
Alors les fondamentaux de la prise en charge de la bêta-thalassémie, qu'elle soit non transfusodépendante ou dépendante des transfusions, ça va être de prendre en charge l'anémie, donc soit de la corriger avec les transfusions, soit essayer de la réduire avec des traitements pour permettre une activité normale. Alors c'est différent de la prise en charge pédiatrique où on veut assurer une croissance normale en priorité pendant la période prépubertaire et pubertaire. Chez les adultes, c'est vraiment maintenir une activité, qu'elle soit professionnelle, familiale, sociale, la plus normale possible. Les autres fondamentaux vont être, dans les formes transfusodépendantes, de vérifier l'absence de donneurs HLA identiques chez tous les patients pour leur faire bénéficier de la greffe si jamais cette thérapeutique n'a pas été envisagée antérieurement. Une des autres choses fondamentales est de discuter la splénectomie, sachant que c'est une thérapeutique qu'on utilise de moins en moins parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas anodine. Et donc aujourd'hui, les enfants pédiatriques qui passent chez les adultes, il y a seulement 25% des enfants qui sont splénectomisés, alors qu'antérieurement, chez les patients très sévères, ils étaient tous splénectomisés. Donc aujourd'hui, on discute les indications de la splénectomie au cas par cas. Enfin, il va falloir prévenir les complications au long cours chez les patients transfusés de la transfusion sanguine, en particulier la surcharge en fer ou l'hémochromatose secondaire. Chez les adultes, il va falloir également discuter le traitement des autres complications de la maladie qu'on retrouve moins chez l'enfant. Donc on a les problématiques des maladies transmises par le sang avec l'affaire du sang contaminé en France dans les années 80. Donc on a des patients adultes qui ont des hépatites virales, voire le VIH. Donc il est important de prendre en charge aussi ces complications qui sont quelque part liées à leur pathologie car ils ne l'auraient pas contracté dans le cas où ils n'étaient pas thalassémiques. La prise en charge des complications ostéo-articulaires. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de l'adulte. Il y a des douleurs liées à l'hématopoïèse, donc il va falloir prendre en charge par des traitements antalgiques adaptés, les complications éventuelles d'autres traitements reçus et l'ostéoporose, qui est vraiment une spécificité de l'adulte qu'il va falloir prendre en charge par des médicaments dont on parlera après.
Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement aux traitements médicamenteux chez ces patients adultes, à quel type de traitement peut-on faire appel ?
Alors, le traitement principal, surtout chez les patients pas transfusés, ça va être une supplémentation en acide folique qui va être utilisée de manière journalière ou au minimum 10 jours par mois. Ensuite, on supplémente également en vitamine D avec un apport en calcium alimentaire suffisant. Alors parfois, on est obligé d'apporter du calcium également des médicaments, mais normalement, un régime alimentaire équilibré permet d'avoir un apport suffisant. Et chez les patients qui ont une surcharge en fer, donc qui sont transfusés ou qui ne sont pas transfusés, mais qui peuvent développer une surcharge en fer avec le temps, en particulier dans les thalassémies intermédiaires. Alors dans ces cas-là, donc on débutera un traitement par chélateur martial en privilégiant une forme orale en une prise par jour pour améliorer l'observance parce qu'on est dans le cadre de maladies chroniques et donc l'observance est très importante à prendre en compte pour la continuité du traitement dans le temps et sur toute une vie. Alors les traitements supplémentaires, ça va dépendre des complications des patients, donc c'est très variable. Donc ça peut être les traitements liés à des endocrinopathies, parce que les patients avec la surcharge en fer peuvent développer des hypothyroïdies, des hypogonadismes, etc. Donc on va mettre en place des traitements de substitution. Les traitements de l'ostéoporose qui sont les biphosphonates, qui sont des injections qu'on fait en hôpital de jour. Et enfin, la prise en charge de l'hyperuricémie qu'on peut retrouver chez certains patients avec des crises de gouttes qui apparaissent et deviennent invalidantes avec le temps, pour lequel on va mettre des traitements hypouricémiants ou d'autres traitements pour éviter les récidives des crises de gouttes.
Et dans ce cadre, quel est le rôle des centres experts, notamment dans la coordination des soins avec les autres professionnels de santé qui prennent en charge ces patients ?
Alors, le rôle des centres experts, il est majeur parce qu'il va permettre aux patients d'accéder à des programmes d'éducation thérapeutique. Il va permettre d'accéder à une prise en charge pluridisciplinaire avec une orientation vers des thérapies innovantes ou des protocoles de recherche clinique. Donc c'est vrai que quand on est centre expert, on a les nouvelles molécules qui sont disponibles plus rapidement, des protocoles de recherche qui peuvent être avantageux pour les patients. Et donc, ça permet également, enfin ça c'est une habitude des centres experts, ils vont se mettre en lien avec les centres de proximité et partager leur expertise et permettre aux patients d'accéder à leur transfusion près de chez eux, mais d'avoir aussi un suivi, par exemple, annuel dans le centre de référence pour discuter des thérapeutiques possibles pour eux et des nouvelles thérapeutiques disponibles.
On arrive à la fin de notre entretien, docteur Joseph. Pour conclure, quelles sont les perspectives de recherche dans la bêta-thalassémie ?
Alors, il y en a plusieurs. Alors, celle dont on parle beaucoup, c'est la thérapie génique, qui est une thérapeutique d'avenir. Donc, il y a plusieurs techniques. Il y en a une qui a déjà montré une efficacité importante et qui est déjà en discussion de commercialisation, c'est celle par addition de gènes. On va ajouter un gène fonctionnel qui va permettre de produire une hémoglobine normale. Les résultats sont très prometteurs. Alors, se pose l'accès aujourd'hui de ces traitements en Europe. Et il y a un autre protocole de thérapie génique qui est en cours actuellement aux États-Unis et en Europe, qui implique une autre technologie, qui est un nom un peu barbare, qui est CRISPR-Cas9, qui va aider en fait à produire de l'hémoglobine dite fœtale, donc celle qu'on avait lorsqu'on était dans le ventre de sa maman. Donc cette technologie a aussi montré des résultats très prometteurs, donc je pense que c'est quelque chose dont on va entendre parler dans les années futures et qui devrait être mise en place de manière non protocolaire. Alors, ce qui est important aussi, parce que la thérapie génique, elle est certes une thérapie curative, mais qui reste lourde, donc il faut améliorer aussi les autres thérapeutiques. Donc, il y a, à mon sens, des progrès à faire dans la toxicité des conditionnements pour greffer les patients, que ce soit chez les enfants et chez les adultes. Et donc, ça, il y a des discussions qui ont lieu pour essayer d'adapter ces traitements et diminuer la morbimortalité de ces chimiothérapies. Donc ça, on est toujours dans la thérapeutique curative. Et enfin, dans les traitements symptomatiques, aujourd'hui, il y a un développement de nouvelles molécules pour limiter les besoins transfusionnels, soit en induisant une production accrue d'hémoglobine fœtale, soit en stabilisant, enfin, par des voies plus métaboliques du globule rouge, qui vont permettre également de réduire le besoin transfusionnel et d'améliorer le chiffre d'hémoglobine chez les patients transfusés ou non transfusés. Il y a une autre molécule qui est actuellement en attente de commercialisation, mais qui a eu les validations par les autorités de santé, qui se fera a priori pour débuter à l'hôpital, qui devrait bientôt arriver sur le marché, qui a montré des résultats intéressants, en particulier chez les patients thalassémiques intermédiaires, transfusés ou pas. Et enfin, par rapport au traitement quotidien des patients, il y a le développement de nouveaux chélateurs de fer qui sont en cours. Alors, il n'y a pas d'études actuellement ouvertes en France, mais il y en a en Europe et aux États-Unis, avec par exemple les analogues de l'hepcidine qui pourraient être des traitements qu'on peut ajouter au traitement actuel, voire utiliser en monothérapie en fonction des efficacités qui vont être observées.
Eh bien, merci mille fois, docteur Joseph, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la bêta-thalassémie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raresalecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rares à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !